je veux dire aussi que peut-être les pratiques scientifiques sont différentes d'une discipline à l'autre, et il y a des contraintes ou des façons de travailler ou de présenter qui sont largement disciplinaires, et je dois dire, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais je dois dire que un sociologue ne s'aventurerait pas, n'aurait pas présenté de documents vidéo pour permettre à son auditoire de suivre. Alors j'ai d'autant, enfin le PowerPoint que j'ai fait me semblait d'autant plus nécessaire que d'abord je ne suis pas parfaitement sûre de répondre parfaitement bien à la question qui est posée. Je vais la reformuler pour que vous compreniez à quoi je réponds. Et puis, je vais faire quelque chose qui va ressembler à un cours de sociologie, et donc largement devant un auditoire qui ne doit pas être très sociologue. Et donc, il me semblait qu'au moins pour suivre les notions que je vais évoquer, ce n'était pas inutile de les voir écrites devant soi. La question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est le point de vue de la sociologie sur la question qui est posée. Je ne vais pas essayer de répondre à la question « Comment penser les résistances féminines au féminisme ?» Je vais essayer de dire « Qu'est-ce que la sociologie a à dire là-dessus »« Comment la sociologie traite un problème comme ça ?» Quelles sont les ouvertures, les perspectives, les notions, l'histoire scientifique de la sociologie par rapport à une question de ce type. Donc, il me semblait que c'était la demande qui m'était faite, et du coup, je me réjouissais, j'en remercie les organisateurs, de remettre le nez dans les problèmes de sociologie qui étaient les miens lorsque j'enseignais, puisque je suis maintenant professeure émérite, et du coup, je me suis dit, oh, bah, très bien, je vais faire un cours de sociologie. Alors, c'est vous dire si mon propos ne sera peut-être pas très affriolant et amusant, mais bon, je vais essayer néanmoins de le rendre pertinent par rapport à la question qui est posée. Ici, on fait comme ça. D'accord. Alors, je vais dans un premier temps, aussi pour dire le contexte, je travaille sur des questions qui sont proches de celles qui est posée ici depuis un grand nombre d'années, et sur les questions liées au genre, on va dire, d'une façon générale aussi depuis fort longtemps. Et j'ai l'habitude, comme je l'ai entendu déjà depuis le début de cette journée, j'ai l'habitude de faire une communication sur une chose spécifique et d'expliquer un terrain, un problème, etc. Ici, c'est vraiment une autre entrée que j'ai choisie. Je veux expliquer pourquoi, dans l'ordre pratique, dans la vie quotidienne, on arrive si mal à résoudre les problèmes de genre, et pourquoi, comment les disciplines scientifiques, en l'occurrence la mienne, peut proposer quelque chose qui permettrait d'expliquer et la difficulté pratique et la difficulté scientifique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une vue plutôt pessimiste des évolutions en matière de rapports sociaux de sexe, et donc c'est un souci, aussi bien comme femme, comme militante, que comme scientifique, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que c'est ces résistances, les résistances féminines, mais des résistances sociales importantes aux évolutions, on va dire égalitaristes, d'un politiquement correct qui semble généralement admis et qui ne fonctionne pas dans la pratique. Donc cette perspective-là, ce problème-là est un problème auquel je suis très sensible, et donc ça m'a intéressé vraiment de répondre à la question que vous posiez et d'essayer de voir ce que la sociologie pouvait y apporter. Alors pour vous expliquer un petit peu le plan que j'ai choisi, Je dirais d'abord, je peux expliquer rapidement, mais je vais le faire tout de suite après, que les résistances féminines au féminisme, je dirais en termes de recherche, c'est un problème déjà pas mal pointu. On pourrait parler du genre, on pourrait parler des études sur les femmes, on pourrait parler de leur place dans la société en général. Là, on choisit quelque chose qui est déjà très pointu. Très pointu, mais encore beaucoup trop large pour qu'on puisse en dire véritablement quelque chose. Et c'est cette logique-là que je vais essayer d'expliquer par un mouvement un peu paradoxal qui va consister à vous présenter des notions encore plus générales pour peut-être essayer de faire comprendre pourquoi on a des difficultés à dire quelque chose qui fasse sens et un sens pertinent et peut-être un sens pertinent pour l'action sur un problème comme celui-ci. Donc je vais inscrire, c'est le sens de mon premier point, je vais inscrire cette question, les résistances féminines au féminisme, dans une perspective sociologique très large, qui est celle du changement social. C'est un des éléments, une des manifestations, un moment, une spécificité, une thématique, une vue pointue sur ce problème, sur un problème général de changement social. Donc la question est comment les choses évoluent, comment elles n'évoluent pas, comment elles marchent, elles vont en arrière, elles vont en avant, etc. On est bien dans ce que les sociologues appellent changement social et sur lequel je vais vous redonner quelques indications pour que on soit à peu près sur ce qu'on peut appeler changement social en sociologie. Et donc j'utiliserai un certain nombre de concepts, ceux qui sont sur la deuxième ligne, idéologie, valeur, normes, croyances, déviance, résistance, et un certain nombre de champs de la sociologie, j'ai choisi famille et sexualité. J'imagine que vous voyez pourquoi. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer de vous montrer comment la lecture que peut faire un chercheur qui travaille cette fois sur ces questions, sur la question spécifique qui est posée, quel niveau, quels éléments, quelles données doivent être mobilisés pour qu'on puisse dire quelque chose qui fasse le plus de sens possible. Et donc, c'est ce que je ferai dans le deuxième temps. Alors, très rapidement, sur la question du changement social, il faut savoir que depuis les tout débuts, depuis la naissance de la sociologie, la question du changement social est une des questions qui fonde la discipline. On se demande essentiellement deux choses, comment est l'ordre social, c'est-à-dire la morphologie sociale, comment on peut décrire les sociétés, et puis comment elles fonctionnent, comment elles marchent, est-ce qu'elles avancent, est-ce qu'elles progressent, est-ce qu'elles évoluent, est-ce qu'elles n'évoluent pas, etc. Donc depuis le tout début de notre discipline, cette question du changement social est transversale à toutes les œuvres. Je l'ai cherché, mais je ne vois quasiment pas de sociologue important qui n'ait traité de cette question d'une façon ou d'une autre. Dans les facteurs généraux, je fais vraiment très large, si vous voulez plus d'explications, je pourrais en donner à d'autres moments, mais ce que je présente là, pour chacun des concepts, pour chacune des notions, mériterait tout un tas de développement. Les facteurs généraux qui sont considérés en sociologie comme vecteurs du changement social sont des facteurs démographiques, des facteurs techniques, des facteurs culturels, et des facteurs liés aux ruptures et aux conflits, aux contradictions. C'est, pour faire court, comment est la population, quel est le niveau technique, est-ce qu'on est dans une société de l'agriculture ou une société de l'électronique, et quelles sont les formes culturelles, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour le coup, j'arrive sur un champ qui est plus proche de celui sur lequel travaillent les civilisationnistes. Et puis, quels sont les moteurs, les facteurs, est-ce que les conflits, les contradictions, les ruptures sont ou non des facteurs importants, j'y reviendrai. Globalement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait deux colonnes. Les réponses que donne l'ensemble de tous les sociologues à cette question du changement social sont de deux types. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui sont à l'intersection des deux types, et des gens qu'on ne peut pas classer, des œuvres qu'on ne peut pas classer, etc. Mais globalement, on a deux logiques qui sont... Si je les développe, c'est parce qu'il me semble que c'est assez important pour le problème qu'on traite ici. Ce qu'on appelle les logiques de l'acteur, et puis... Des logiques du déterminisme social. Alors, les logiques de l'acteur sont... les sociologies de l'acteur sont des sociologies qui disent les sociétés sont d'abord des agrégats d'individus et les intérêts de chacun se cumulent pour faire des faits collectifs. Et il y a une nécessité à comprendre une rationalité individuelle pour comprendre le collectif. Les rationalités des individus s'agrègent et constituent des idées, des valeurs, des groupes sociaux, etc. Et la détermination est forte de l'individu vers le groupe davantage, où il est nécessaire de le regarder davantage que de supposer ce que font les sociologues de la deuxième colonne, qu'il y a une préexistence de l'organisation sociale et que c'est elle qui détermine les comportements individuels. Vous voyez, j'ai mis, voilà, les deux pères de la sociologie sont chacun d'un côté de ces façons d'expliquer les choses. Et ce qui est important à considérer pour ce qui va nous intéresser après dans les logiques de l'acteur, c'est la pluralité des choix et la nécessité de référer à des rationalités qui sont des rationalités de type individuel. Parmi les sociologues du second XXe siècle, Boudon illustre très bien cette tendance de la sociologie. De l'autre côté, une sociologie dont on a peut-être entendu plus parler, parce qu'elle est liée aussi à des formes politiques qui ont eu davantage le devant de la scène, et en Europe, enfin en France en particulier, dans les lectures féminines, féministes, de genre aussi, les lectures du déterminisme social, les positions dans l'organisation sociale déterminent nos comportements, et si je suis, pour faire simple, je sais pas quoi, fille d'ouvrier peu scolarisée, j'aurai un mariage de tel type et un comportement social et professionnels de tel type, etc. Donc il y a une logique de prédiction, un peu simpliste, là je vous le fais rapidement, dans la logique du déterminisme social, et une logique de volontarisme dans les logiques de l'acteur. Bourdieu, bien sûr, est le sociologue qui illustre le mieux cette tendance dans la sociologie contemporaine, avec notamment la notion d'habitus, sur laquelle il me semble qu'il y aurait une nécessité, peut-être, en tout cas, si votre recherche gardait une dimension sociologique, il y aurait certainement une nécessité à travailler autour de la notion d'habitus sur une thématique comme celle que vous avez choisie. Le changement social, par certains sociologues, est considéré comme essentiellement endogène. C'est peut-être dans cette dimension-là qu'il est plus près de beaucoup de courants de l'histoire. Une tendance endogène, ça veut dire que les sociétés changent sur elles-mêmes, par évolution sur elles-mêmes. Donc, par exemple, le modèle le plus simple de cette façon de penser, c'est de considérer qu'il y a une évolution. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment dire, beaucoup trop fréquemment dire à mon sens, sur les questions qui nous intéressent et par le sens commun. Tout va pour le mieux, vous savez, tout a beaucoup évolué depuis les années 70, maintenant tout va bien et on va continuer à progresser comme ça et tout va aller de mieux en mieux. On va étendre des modalités pratiques de l'action et puis tout le monde va devenir égalitariste demain matin ou au siècle prochain, je ne sais pas. Et cette façon de voir, c'est une façon endogène, c'est-à-dire on considère que la société comme elle est produit ses propres changements. Et l'autre modèle, c'est le changement est exogène. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit extérieur à la société elle-même pour qu'on ait de véritables changements sociaux. Le changement social étant bien un changement de toute la société et pas seulement le changement d'un facteur ou d'un élément de la société. Parmi les facteurs endogènes, que j'ai noté l'innovation qui est très à la mode, mais j'ai noté action-événement, mais par exemple, les guerres sont de très forts facteurs endogènes du changement social. Alors, j'essaierai d'expliquer après globalement comment le problème est un problème de changement social et je donne maintenant quelques indications sur quelques concepts très largement traités par tous les sociologues, par beaucoup de sociologues. La littérature est immense sur ces concepts et je suis toujours frappée par le fait que, et c'est pour ça aussi que je trouve votre initiative intéressante, je suis frappée par le fait qu'on prend le train en marche tout le temps et on dit on va parler par je ne sais combien de séminaires qui s'appellent normes et genres existent en France depuis une dizaine d'années, il y en a des quantités et puis c'est comme si tout le monde savait ce qu'est normes, c'est tout le genre, j'en parle même pas et on fait comme si on était le premier à utiliser le terme et qu'on avait le droit d'utiliser le terme de sens commun pour en parler. Non, il faudrait peut-être regarder ce que les autres ont fait avant et surtout comment on peut servir ces notions. Notamment, la sociologie anglo-saxonne a beaucoup travaillé dans ce champ-là, donc là aussi, vos connaissances doivent être aussi certainement plus importantes que les miennes. Alors, j'ai décliné des concepts qui sont tous emboîtés. Croyances, normes, valeurs, idéologies, c'est des poupées russes, et puis déviance, c'est pour ceux qui font de travers par rapport à mon ensemble de poupées russes. Et donc résistance, vous comprenez, c'est la réaction. Idéologie, je caractériserai ce terme-là, alors c'est compliqué aussi, ça a beaucoup occupé la littérature, mais je le considérerai ici comme système de valeurs. C'est la dimension la plus large. Je dirais quelque chose comme idéologie des sociétés occidentales, idéologie pour un système religieux complexe, par exemple sur l'Inde hindouiste et bouddhiste, sur la Chine, etc. Ou on peut avoir une échelle plus petite, mais idéologie est un terme qui va comprendre des systèmes d'idées et des systèmes de raisons et des systèmes de légitimation de ces raisons complexes qui vont contenir à la fois des éléments techniques, des éléments religieux, des éléments linguistiques, etc. On est vraiment dans la dimension large. Dans les idéologies, qui sont donc des systèmes de valeurs, on va avoir donc des valeurs. Les valeurs, elles, j'arrête pas de monter et descendre dans l'échelle que je vous ai dessinée. Les valeurs, je caractériserai rapidement comme les raisons et les formes de légitimation de l'action. Donc, on fait des choses dans tel cadre, par exemple, le plus simple, évidemment, sont les valeurs religieuses, mais nous aussi, et pour ce qui va nous intéresser, c'est important, les valeurs des droits de l'homme, par exemple, vont être l'espèce de top, l'espèce de chapeau qui va déterminer notre action et nos jugements. Donc on va agir bien ou mal en fonction de notre adéquation, de notre compréhension de ces systèmes de valeurs-là. Ce serait exactement la même chose, par exemple, pour le christianisme ou pour l'islam, pour toutes sortes d'autres systèmes de valeurs. La notion de norme est une notion plus restreinte, puisque les normes sont en fait les formes d'institutionnalisation des valeurs. Pour dire plus simplement, je dirais que les normes, c'est les modes d'action appropriés. C'est ce que la société nous indique comme mode d'action approprié, ce qu'on doit faire. On doit être poli de telle façon, on doit se tenir de telle façon, on doit voter de telle façon, on doit se comporter dans le champ professionnel de telle façon, etc. Il y a là un système de code beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus restreint. Quand je dis institutionnel, n'entendez pas qu'il s'agisse d'une loi ou d'un code juridique écrit quelque part. C'est ça, mais c'est aussi ce que je viens d'évoquer, la politesse, le sens de l'art, la façon de s'habiller, etc. Tout ça est parfaitement codifié et lié à un temps donné. C'est généralement les systèmes de normes qui permettent le mieux de caractériser une situation donnée, ce qu'on appelle un contexte situé. La notion de croyance est aussi assez simple à définir dans cette logique-là. Je dirais tout simplement que c'est l'adhésion aux idéologies. C'est l'adhésion aux valeurs, au système de valeurs. Donc on accepte, on croit, on adhère, par exemple, à la science. Donc la vérité, le vrai, va être lié essentiellement à la dimension scientifique. Mais si vous êtes plutôt dans un système religieux, le vrai, la vérité est d'abord divine, ou etc. Et il y a à l'intérieur de chaque individu une adhésion à des ensembles de systèmes, je prends que la vérité, mais il y a beaucoup d'autres choses, à des ensembles de systèmes qui vont faire que les individus vont accepter le système de valeurs. Plus vous y croyez, plus vous adhérez, plus vous êtes en synergie avec les normes, les valeurs et l'idéologie dans laquelle vous vous inscrivez. N'entendez pas que je considère ou que les sociologues considèrent que toute personne est totalement déterminée dans un seul système, mais néanmoins, il y a des tendances lourdes qui nous permettent de déterminer comment fonctionnent les sociétés. Les deux autres termes sont les termes de réaction. Alors, si on n'est pas bien calé dans l'adhésion au système idéologique, ben on est déviant. Et ce qui est important de regarder, c'est que la déviance, qui est la transgression des normes, la déviance n'est pas du tout une réalité homogène, elle est toujours une réalité désignée par ceux qui sont dans le système. S'il n'y a personne qui désigne votre comportement comme déviant, il n'est pas déviant. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit très fréquemment, par exemple, dans le comportement homme-femme. Si, Christine, c'est ça, beaucoup mieux que moi, si on porte un pantalon en 1950, on est dans un comportement déviant. Si on le porte en 2000, on n'est pas dans un comportement déviant. Qu'est-ce qui fait la déviance? Rien de plus, toujours la même chose, de toujours habillé pareil. Ce qui fait la déviance, c'est la désignation par le collectif de la transgression de la norme. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui change? Vous voyez qu'on commence à s'interroger plus finement sur qu'est-ce qui change dans la désignation de ce qui est transgressif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe très large va désigner la transgression et à un autre moment donné, une majorité ou en tout cas un groupe anomique suffisamment grand est constitué pour que ça ne soit plus une transgression. Un autre exemple, sur le mariage homosexuel par exemple, ou sur les naissances hors mariage par exemple, les naissances hors mariage sont une transgression épouvantable encore jusque dans les années 70, elles ne sont plus du tout une transgression épouvantable maintenant, elles sont presque la moitié des naissances qui ont lieu en ce pays. Donc, vous voyez, ici, on a bien un problème très important pour comprendre ce qui va se jouer dans l'ordre des résistances au féminisme ou à d'autres choses, dans à la fois ce système d'adhésion et cette façon de désigner ce qu'est la déviance. En symétrie ou en synergie, en symbiose avec la déviance, se trouvent les résistances. Les résistances sont très souvent liées à la désignation de la transgression. C'est ceux qui disent qu'il ne faut pas faire ça, qui sont du côté de la résistance, du moins au sens où on l'entend ici, puisque évidemment je ne suis pas entrée du tout dans la logique qui consistait à souligner l'ambivalence du terme résistance, où on peut être résistant aux normes ou bien où les normes résistent à l'évolution. On est dans la seconde perspective ici, je n'ai même pas évoqué l'autre. Donc, sur l'ensemble de ces notions-là, sur leur maniement, qui me paraissent importants pour essayer de dire quelque chose sur le problème qui est posé dans ce séminaire, il faut savoir que des travaux importants sont faits, des lectures... La lecture par emboîtement que je vous propose n'est pas trouvée universellement partout, donc il faut aussi la discuter, regarder ces choses, mais la sociologie a travaillé de façon considérable sur ces notions. Je dis, et je vais finir sur ça pour ce premier point, plus petite que ces lectures très théoriques d'une sociologie du changement social, la sociologie est divisée aussi en champs spécifiques, en champs de connaissances spécifiques. Il y a la sociologie de la famille, la sociologie du sport, la sociologie du travail, la sociologie des religions, la sociologie de tout ce que vous voulez, qui va produire, elle, des résultats beaucoup plus concrets sur le nombre de mariages, le nombre de naissances hors mariage, etc. Vous allez avoir tout un ensemble d'informations. Donc là, il faut regarder les travaux de sociologie de la famille pour peut-être aussi avoir un certain nombre d'éléments de réponse aux questions qui sont posées ici, et évidemment celles des normes de la sexualité. Maintenant, pour traiter plus concrètement, bien que ce soit encore très général ce que je vais dire, des résistances féminines au féminisme, vous voyez que j'ai intitulé mon deuxième paragraphe, pour vous ça peut paraître peut-être un peu la même chose, mais je l'ai cette fois intitulé « Les résistances féminines au féminisme comme objet sociologique ». Cette fois, je l'ai situé dans une problématique très générale et je le regarde comme objet spécifique. Et la première chose que je me demande quand je regarde cet objet de façon spécifique, c'est, d'ailleurs c'était une question que j'avais posée à Marc parce qu'il m'avait parlé au téléphone pour la première fois, est-ce que c'est au singulier ou est-ce que c'est au pluriel, tout ça, quand je ne le voyais pas écrit et je ne le savais pas. Et effectivement, c'est un problème qui est posé. Le premier mot, moi, qui me fait problème là-dedans, c'est féminisme, c'est pas résistance féminine, c'est féminisme. Féminisme, parce que ça fait 40 ans que je m'intéresse à cette question ou davantage, je sais de moins en moins comment définir ce terme. Donc j'ai de plus en plus de sédimentation sur cette question, et donc j'essaierai de les évacuer un petit peu dans la troisième partie de ce que je vous dirai. Il me semble néanmoins que ce qui caractérise d'une façon très générale le féminisme, cette fois je dis au singulier, le féminisme, c'est le lien qui l'attache à l'idéologie de la modernité. J'appelle l'idéologie de la modernité, là de façon très spécifique, quelque chose, un mouvement, un changement dans les paradigmes sociaux qui, à mon sens, démarre au début du XVe siècle et à son acmé au milieu du XXe. Donc c'est un mouvement pas très lent, ça bouge assez vite, mais bon, c'est lent au terme, à l'aune d'une vie individuelle. C'est un mouvement qui est lié à essentiellement l'affaissement du paradigme religieux. C'est l'affaissement du christianisme, en fait, qui est l'alternative de la modernité. L'alternative de la modernité est l'alternative à l'affaissement du christianisme, qui est probablement dans un état, le christianisme, qui est probablement dans un état très déliquescent autour du XIVe siècle. Et donc on va avoir après une nécessité intellectuelle et sociale de reconstituer un autre système idéologique, un autre système de valeurs, qui évidemment ne se met pas en place du jour au lendemain parce que quelqu'un l'aurait sorti de son chapeau, mais qui va déplacer toutes les règles des comportements sociaux. qui va déplacer toutes les règles des comportements sociaux. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure quand je vous ai expliqué ce qu'était le changement social et les concepts de la modification sociale. Pour un sociologue, en tout cas pour moi, il n'y a pas de lecture possible d'un micro-fait social sans la totalité de son concept, de son contexte. Et donc, sur la question de la modernité, le fait de sécularisation qui s'amorce avec la réforme, et même avant, mais au moins avec la réforme religieuse, du christianisme, le protestantisme, et qui va se développer avec le développement de la science pour faire court, et un libéralisme politique qui va remettre en question le système chrétien des ordres sociaux, et en particulier la féodalité. C'est cette remise en question idéologique, c'est ça un basculement idéologique, c'est ça un changement social. Quand je dis le changement social, c'est toute la société qui change, c'est pas seulement telle ou telle petite chose dans la société qui change. Donc ce grand basculement, il ne peut être porté que sur plusieurs siècles. Toutes ces choses ne se font pas en 5 minutes parce que quelqu'un l'a décrété. Et donc on a ce basculement qui a, je dirais, sa forme écrite, sa forme intellectuelle la plus évidente avec la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, et si vous, cette fois on est bien plus proche de nous, je ne dirais pas que vous en souvenez, mais si vous regardez ce qui se passe depuis le XVIIIe siècle, eh bien on voit que nous ramons, la société rame, la modernité rame à se mettre en place de plus en plus, je dirais, à travers le développement de la science. Donc c'est comme moi qu'il est encore balbutiant au début de la période, qu'il est plus prégnant maintenant, et ainsi de suite pour toutes les valeurs. Si on regarde à l'envers ce qui se délite, on voit jusqu'au milieu du XXe siècle une prégnance importante des valeurs chrétiennes dans la société occidentale, en particulier des valeurs familiales, avec une certaine forme de famille, et on voit le délitement. C'est pourquoi je dis que le milieu du XXe siècle est l'acmé de la modernité. On voit le délitement de cette réalité-là se produire sous nos yeux, cette fois, entre 1950, on va dire pour faire court, et maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'avec cette façon de penser, il y a une montée du féminisme ? Parce que la modernité, cette fois, je ne veux pas vous faire un cours là-dessus, les droits de l'homme, c'est... notamment l'égalité, la liberté et l'égalité, qui sont les deux vecteurs qui vont porter l'idée d'essayer de se mettre à reconnaître qui est libre et égaux entre qui et qui. Et donc, petit à petit, on va accepter que tous les êtres humains soient égaux, petit à petit, parce que je ne suis pas convaincue encore que ce soit vraiment le cas maintenant, mais enfin, globalement, maintenant en tout cas, depuis le milieu du XXe siècle, on a une idéologie très marquée de l'égalité entre les êtres humains, qui est fondée essentiellement en raison et qui est associée à une liberté dont la forme la plus aboutie à notre époque et pas nécessairement la plus libre et sont toutes les formes de libéralisme politique et ce qu'on appelle globalement la démocratie. Le fait que les femmes soient des êtres humains à part entière entraîne inévitablement le mouvement du féminisme. Tant qu'on ne le croit pas, on ne fait rien. À partir du moment où on est convaincu d'être un être humain à part entière, on réclame. Et quand on est dans une logique de droit, et de droit écrit égalitaire, eh ben on veut ce qu'on a le droit d'avoir. Donc on a une montée du féminisme qui, à mon avis, n'est pas spécifiquement liée à une espèce de qualité qu'auraient les femmes du XXe siècle d'être plus avancées que les autres, mais au contraire à une avancée globale de la société, voire un nouveau basculement idéologique qui se passe à partir du milieu du XXe siècle. Évidemment, cette fois, je ne vous fais pas un propos sur le féminisme. Quand on regarde pourquoi le féminisme rencontre des résistances, eh bien, on tombe sur les conséquences sociales de l'idée égalitaire entre les hommes, qu'il y ait une égalité de droit entre les hommes et les femmes, qui est la déconstruction de la famille. La déconstruction, quand je dis la déconstruction de la famille, n'entendez pas que je ne considère pas qu'il n'y ait plus de famille maintenant, je considère qu'il y a plein de familles maintenant, autant de familles qu'il y en avait avant, sauf que le modèle de la famille est déconstruit. On avait au milieu des années 50 une famille de type nucléaire, on avait dans les années 70 ce qu'on peut appeler une famille moderne, c'est-à-dire une famille où le divorce était introduit alors qu'il était quasiment impossible avant, où le contrôle des naissances est introduit, où le travail féminin est introduit, etc. On a à partir des années 90 et la montée des divorces, la montée d'un modèle familial qui est les familles recomposées. Et on a maintenant ce qu'on peut appeler une famille dénaturalisée, mais je ne veux pas revenir sur toutes ces notions-là. Donc, j'ai fait ce tableau-là pour vous dire que on a une déconstruction de la famille, on a une déstabilisation des rapports de pouvoir qu'on voit à travers la famille et le rapport à l'économie, ici que j'ai indiqué, mais j'aurais pu mettre d'autres indicateurs, des indicateurs techniques, des indicateurs de type de même d'organisation spatiale, etc. Et j'ai indiqué ici, mais rapidement, c'était pas mon propos non plus, on a une déconstruction des sexualités. Je veux juste redire, mais j'imagine que tout le monde sait ça par cœur, évidemment je distingue sexe, libido, sexualité et genre. Et c'est aussi un emboîtement conceptuel qui, toutes ces choses n'ont à voir que de très loin les unes avec les autres. Et donc, on va retrouver cette construction, déconstruction des sexualités. Là, ce que j'appelle sexualité, c'est la norme admise de la pratique sexuelle. Les sexualités sont les normes admises à la pratique sexuelle, c'est la définition que j'en donnerai. Elles sont composées d'une part libidinale, qui est notre part biologique, psychologique, etc., physiologique de sexualité. Elles constituent notre sexe au sens où il est reconnu d'une façon ou d'une autre par la société dans sa dimension administrative, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que deux sexes. Certaines sociétés reconnaissent plus que deux sexes. Hein. Ce n'est pas biologique, c'est bien social. Et puis, c'est, le genre correspondrait au mode d'adhésion, au mode d'action des individus par rapport au système normatif induit par les sexualités, donc par la contrainte sociale sur les pratiques sexuelles. Je vous le refais juste un petit peu, je vois plein d'interrogations dans vos yeux, je vous le refais juste en plus court. On a une détermination de sexe qui est d'ordre biologico-administratif, on a une réalité de sexualité physiologique, psychologique, etc. On a des sexualités ou une sexualité qui est composée essentiellement parce que la société nous autorise à faire et les déviances qu'on peut avoir par rapport à ce qu'elle nous autorise à faire, mais c'est ça qui va constituer la sexualité. Et puis ensuite, notre genre et le mode de pratique décliné dans l'ensemble social des comportements liés à notre sexualité. Donc le modèle de la sexualité est celui de la reproduction, du mariage, de l'héritage masculin et de la contrainte sur la sexualité des femmes, mais pas que ça. Et évidemment, quand il y a un décalage qui se fait, ce qui est le cas à l'époque actuelle, entre le modèle de la famille nucléaire et la contrainte sur l'héritage masculin et la contrainte sur la sexualité féminine pour permettre une reproduction contrôlée par les hommes de leur descendance, quand ce modèle-là se déstabilise, on a à différents niveaux des autorisations et de nouveau d'autres contraintes qui se posent sur la sexualité. La sexualité n'est pas libre parce qu'elle est libérée du modèle de la famille nucléaire. Elle est différente. Les systèmes qui sont admis maintenant sont différents. De la même façon, on n'est pas plus libre parce qu'on se promène à moitié nu sur les affiches qu'on l'était en étant habillé jusqu'en haut de la tête. C'est la même chose. Et enfin, le dernier point, les féminismes situés, je vais probablement dépasser mon temps, je ne sais plus où j'en suis, mais surtout si vous me le dites, hein. Oui, bon, c'est bon, je vais finir là. Le dernier point sur ce que j'appelle les féminismes situés, c'est peut-être la chose qui est la plus simple. Ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est les résistances. Vous avez bien entendu, j'ai parlé essentiellement des résistances sociales, je n'ai pas parlé des résistances féminine. Et puis sur la question des féminismes, c'est-à-dire cette fois du pluriel de l'intitulé de ce séminaire, il me semble que c'est pas forcément le problème le plus difficile si on n'essaie pas de savoir au fond ce qu'on veut retenir comme définition du féminisme, parce que c'est parfaitement situé. On va avoir, je ne sais pas quoi, un féminisme de la deuxième vague, de la troisième vague, quelque chose qui va être plutôt tourné vers une remise en question du genre que seulement de la position des femmes dans la société. On va avoir un féminisme matérialiste, on va avoir un différentialisme, etc. On va avoir tout un ensemble, je dirais, relativement petit et conjoncturel de construction idéologique pour rendre compte d'un point de vue qui, à mon sens, s'inscrit dans le déclin de la modernité. Et donc, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vous redirai pas toutes ces formes de féminisme auxquelles on peut adhérer, mais ce que je voudrais dire pour refermer mon propos, c'est que pour comprendre, pour savoir désigner qui est féministe et qui résiste au féminisme, notamment parmi les femmes, puisque c'est ça qu'on regarde, pour savoir comment comprendre ça, qui le fait. D'abord, évidemment, il faut savoir de quel féminisme on parle, c'est-à-dire resituer le système idéologique micro-local datant des 50 dernières années qui va faire votre détermination. Ça, si vous adhérez à l'idée des droits de l'homme, à un féminisme plutôt lié à l'organisation familiale que lié au mode de la sexualité, ou si au contraire vous considérez qu'il faut nécessairement prendre en compte les dimensions de la sexualité, c'est-à-dire le système normatif lié à la sexualité, pour rendre compte de la disparité des comportements et vous situer, vous trouvez que c'est mieux qu'on prenne en compte tout ça que de ne pas le prendre en compte, eh bien ce qui va faire résistance pour les unes et pas pour les autres. À partir de quel moment on pourrait dire objectivement que quelqu'un serait féministe et donc qu'il y aurait des résistances à ce qu'elle le soit, ou au contraire pas de résistance du tout à ce qu'elle, une femme serait pas du tout féministe, ou etc. Évidemment, ça ne peut être qu'en référence à un modèle idéologique. Je suis pas féministe. Je suis féministe, par exemple, si je suis pour l'avortement, favorable à l'avortement. Mais si, dans le même temps, je suis, et ça, beaucoup de femmes le sont, très hostiles à l'homosexualité, est-ce que je suis aussi féministe que ma collègue qui, elle, est aussi favorable à l'homosexualité? Et si je pense qu'il n'y a pas que deux sexes, mais une pluralité de sexes, parce qu'il y a une construction sociale des sexes, je prends en compte la dimension du genre, et alors beaucoup, vous le savez maintenant, beaucoup de gens, de femmes, sont considérés comme non mal féministes, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils prennent en compte essentiellement le problème des femmes et pas celui du genre, et ainsi de suite dans la détermination des formes idéologiques de féminisme qu'on peut prendre en considération. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que il est vain, où il est difficile et mais quasiment vain d'essayer de prendre le problème par le petit bout, c'est-à-dire juste de dire est-ce que telle personne, telle femme résiste au féminisme, mais au contraire de réinscrire la totalité du problème dans la totalité de l'évolution sociale, du changement social, et donc à la fois, il faudra regarder tout le système idéologique qui est défendu par telle ou telle personne pour rendre compte de son antiféminisme ou non. Exemple, très facile maintenant, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui soit un militant catholique extrémiste, très hostile au mariage pour tous, soit féministe? Peut-être. Dans ce que je viens de vous dire, peut-être. Parce que si je ramène, par exemple, le féminisme à l'idée de « je ne me laisserai pas faire » par mon mari, par exemple, j'essaierai d'avoir une dignité de femme à part entière, une place que je jugerai égale à ce qui est mon droit. Mon droit, à ce moment-là, ne sera peut-être pas un droit du même type que le droit du droit de l'homme, mais enfin, ça sera le droit auquel je me réfère. Si je suis, par exemple, essentialiste, quelque chose de ce genre-là, eh bien, je peux être et catholique ultra et tout ce qui va avec, et féministe. Et donc la résistance, où est-ce qu'elle va être? Ces femmes-là, elles résistent au féminisme, entre guillemets, pardonnez-moi, plus avancé, mais elles ne résistent pas forcément au féminisme. Donc quand vous allez regarder le problème, si vous ne prenez pas l'ensemble le plus large possible, bien entendu, on ne peut pas prendre la totalité de toutes les données dont j'ai parlé en même temps, on ne peut pas toutes les prendre en compte en même temps, mais quand vous regardez un très petit problème, est-ce que tel auteur est antiféministe, est-ce que tel groupe, micro-groupe, est-ce que tel ensemble d'associations étudiantes de l'université d'Aix-en-Provence est ou non féministe? Là, vous devez obligatoirement, en tout cas du point de vue de la sociologie, prendre en compte l'analyse de leur appartenance idéologique, de leur croyance à des normes, des valeurs et un système idéologique, et décider que vous, ce n'est pas celui que vous partagez, donc vous allez trouver le leur comme ci ou comme ça, mais vous ne pouvez pas ne pas prendre la totalité de ces données en compte si vous voulez comprendre quelque chose comme les résistances. Sinon, tout le monde est du même avis, la société évolue, il y a un modèle qui est la vérité, la société évolue en progressant et tout le monde va finir par penser pareil. Ben non, ça c'est complètement interdit à penser dans une perspective sociologique. Voilà, je suis désolée d'avoir commencé en embrouillant certainement beaucoup les choses, mais c'est ce qui me paraissait important de dire. Je dirais à la fois dans l'ordre scientifique, si on veut faire des choses qui vont aller dans l'ordre de l'interprétation et pas seulement de la description dans l'ordre scientifique, et dans l'ordre pratique, je dirais encore plus, parce que tous les coups de bâton dans l'eau qu'on peut donner sont très souvent liés à des mauvaises analyses de la situation. Merci.
Merci, cet approche très éclairante et très sociologique et qui certainement nous donne des outils extrêmement précis et précieux pour la suite. Alors justement, la suite, finalement, est-ce que, je vais peut-être vous poser une question et puis on va donner la parole à la salle, bien sûr, mais au fond, est-ce que vous croyez à notre objet d'étude, les résistances féminines aux féministes, parce que effectivement, la définition du féminisme est importante. Il y a des féminismes, et c'est une question qu'on se pose ensemble. Mais est-ce que malgré tout, vous pensez qu'il est pertinent d'essayer d'isoler cet objet d'étude des femmes? Et comment vous positionner. Alors, vous avez parlé de votre approche en tant que scientifique, en tant que femme, en tant que militante. Donc là, c'est en tant que scientifique. Mais en tant que femme, que militante, est-ce que...
J'ai dit, pour commencer, que je trouvais que bien qu'il y ait une focale sur, qui semble petite, c'est-à-dire seulement les résistances féminines au féminisme, c'est un très grand problème. Enfin, c'est un problème qui est très large encore. Probablement trop large pour être embrassé dans sa totalité. Et vous comprenez pourquoi je dis ça ? Parce que pour l'embrasser dans sa totalité, il faut prendre en compte les évolutions idéologiques que j'ai caractérisées, les systèmes de féminisme et leurs différences, et resituer les groupes de femmes potentielles que vous regarderiez par rapport à ça. Donc, voilà, c'est immense. À nouveau, on se retrouve devant un problème qui est trop grand. C'est très souvent le cas dans les sciences humaines et sociales que les problèmes dont on traite, on aimerait avoir des réponses aux problèmes généraux. Bah, oui, mais bon, ça, c'est difficile à faire. Et donc, je trouve que non seulement votre objet est pertinent, mais même qu'il est beaucoup trop grand, et donc que vous devriez encore regarder seulement, peut-être, tel auteur ou tel groupe de femmes, ou tel moment ou tel type, par exemple, je sais pas quoi, les résistances au vote des femmes, par exemple, dans tel lieu, à telle époque, ça serait déjà aussi très grand, parce qu'il faudrait regarder quelle femme, quel mode, quelle organisation sociale, quel type de démocratie, patati patata, pour comprendre ce qui peut faire résistance. J'ai essayé d'expliquer bien trop vite aussi que dans l'adhésion au système idéologique, dans la croyance, les croyances sont toutes rationnelles. Il n'y a personne qui croit quelque chose pour se flageller ou pour se faire du mal. Enfin, on a peut-être quelques masochistes, mais enfin bon, mis à part cette perversion, la plupart des gens choisissent des choses pour lesquelles ils pensent qu'ils ont un intérêt. Et donc, il faut regarder du coup de façon détaillée qui, pour quel intérêt, dans quel contexte, etc. Et là, on peut commencer à avoir des réponses avec une dimension plus petite et éventuellement ensuite agréger plusieurs types de réponses ou plusieurs groupes ou plusieurs personnes ou personnalités et puis commencer à trouver des choses qui sont un peu plus générales. Là aussi, il me semble que votre démarche pluridisciplinaire est intéressante parce que l'un d'entre vous va être plutôt porté sur les qualités de la langue, par exemple, un autre sur l'évolution historique et un troisième peut-être sur une dimension sociale ou démographique ou je ne sais pas quoi. Et c'est de l'ensemble du travail de chacun que vous pourrez sur quelque chose qui sera bien plus petit que les résistances féminines au féminisme, mais les résistances de tel groupe de femmes à tel moment, à tel type de problème lié au féminisme, que...
Donc des résistances, finalement, plutôt que des...
Ah ben oui, probablement aussi. Et bon, après, ça peut être un lait de généralité, enfin, je sais pas, ça c'est plutôt une façon d'exprimer les choses.
Des questions dans la salle?
C'est...
Oui, merci. J'ai voulu poser une question sur le poids de la religion qui me semble qu'il traverse toutes ces catégories, enfin les religions à titre général, que ce soit en Occident ou ailleurs, sud de la Méditerranée, civilisation, Afrique, etc., pas ailleurs, subsaharienne. Je pense que la religion vue comme poids patriarcal. Parce que là, je prends un exemple de quelque chose qui me préoccupe beaucoup, les élections aux USA, Hillary Clinton. Je prends comme exemple, bon, avec tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est absolument effrayant le poids du genre, le poids des normes, la violence contre une personne féminine, enfin de genre, de sexe féminin. Alors, j'aimerais avoir un petit peu votre regard vis-à-vis de ce que vous avez construit là, vis-à-vis de la résistance féminine qui solidaire, parce que pour rester dans le sujet, il y a vraiment un mouvement, des mouvements des individus ou des mouvements de femmes contre Hillary Clinton pour des raisons variées, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui résiste au système.
Oui, sur la, dans l'ordre religieux, enfin, la plupart du temps, enfin, pour toutes les grandes religions en tout cas, les grands monothéismes, mais je pense qu'on peut étendre à d'autres systèmes religieux, les systèmes religieux sont des formes de légitimation des pratiques sociales. Un des problèmes les plus importants qui préoccupe les êtres humains depuis qu'il y a des êtres humains probablement, c'est comment faire groupe et vivre en société. Faire groupe et vivre en société, c'est globalement, si je fais très court, c'est globalement construire quelque chose comme de la parenté. Or, à travers ce qu'on appelle la parenté au système familial, mais le système familial n'est qu'un dérivé de la parenté, ce qu'on maîtrise, c'est la reproduction du groupe et l'économie, la transmission des biens. Bon, les religions sont l'expression transposée dans une perspective métaphysique de cette réalité-là. Donc, là, quand on dit la plupart des religions sont de type patriarcal, oui, mais c'est un hasard, c'est juste, enfin, c'est pas un hasard, c'est juste parce qu'elles sont associées à des sociétés qui veulent contrôler la transmission des biens par les hommes. Quand on regarde des sociétés où la transmission des hommes, des biens par, n'est pas faite par les lignées d'hommes, mais faite par les lignées de femmes, il y a des sociétés de ce type, elles ne sont néanmoins pas des matriarcats, hein, ça n'existe pas, elles ne détiennent pas la totalité du pouvoir, les formes religieuses ne sont pas du tout prégnantes sur la sexualité. C'est très, très frappant que les sociétés où il n'y a pas d'importance à la reconnaissance de la paternité pour la transmission des biens, ces sociétés-là sont très libérales sur la, du point de vue chrétien, là je parle, hein, sur la sexualité. C'est-à-dire que, ben, par exemple, vous avez sûrement entendu les relations de voyage des voyageurs des siècles passés qui arrivent dans des îles où on leur donne les femmes, où toutes les femmes sont offertes. Mais ça, c'est des sociétés où il n'y a pas d'importance à la lignée patriarcale. L'importance étant l'importance de la transmission des biens. Quand les sociétés se moquent de savoir de qui sont les enfants du côté paternel, on a beaucoup moins de problèmes de contraintes sur la sexualité, notamment sur la sexualité des femmes. Le lien est manifeste. Maintenant, ça n'arrive pas jusqu'aux élections aux États-Unis, mais j'entendais, par exemple, ce matin en venant, j'entendais à la radio un blabla sur la sécularisation aux USA, le fait que les différentes églises aux USA n'ont plus systématiquement le poids dans le système électoral. Leurs adeptes ne votent plus massivement comme ils disent qu'il faut voter. Hein, grosso modo, c'est ça. Et puis, j'entendais ça à la radio, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait. Et il disait que notamment, ce qu'on appelle les nonnes, ceux qui ne se prononcent pas sur leur appartenance religieuse, c'est un groupe qui devient de plus important, ce qu'on appelle, nous, la sécularisation. Ces deux réalités nous montrent une société qui semble recomposer ou se détacher ou modifier son système religieux. Néanmoins, toute ceux qui, aux États-Unis, vont défendre la famille au sens traditionnel, c'est-à-dire pas d'adultère, une contrainte sur la sexualité des femmes pour assurer la paternité des hommes, etc., tout cela, systématiquement, vont faire résistance à travers leur Église à une évolution plus égalitaire et donc vont être plus hostiles à une libération des femmes ou à une liberté plus grande des femmes ou à un rôle public plus grand des femmes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je trouve que le cas est assez intéressant parce qu'aux États-Unis, en ce moment, on a les deux mouvements. C'est-à-dire, on a à la fois tous ceux qui continuent à penser que quand même les femmes feraient mieux de s'occuper autre chose que d'être président de la République, et puis on a aussi une déstabilisation des formes religieuses. Donc les choses c'est pas mécanique comme ça. Les modèles religieux expriment l'organisation sociale. Mais sur des temps très longs, là aussi, mais avec des évolutions importantes. On le voit pour le christianisme, on le voit pour l'islam. Je donne un exemple pour l'islam qui est assez intéressant. L'islam exporté, comme en Afrique noire par exemple, eh bien en Afrique noire, la façon de s'habiller traditionnelle, c'est les femmes ne portent rien sur le torse, donc les seins nus, et pas la. La migration, l'exportation de l'islam n'a pas changé cette réalité sociale-là, par exemple. Ah, c'est absolument inimaginable que tout d'un coup ça débarque comme ça dans un pays du Maghreb, des bords de la Méditerranée, mais c'est comme ça sur l'islam en Afrique noire, par exemple. Donc, tu vois, c'est pas le modèle religieux qui détermine l'organisation sociale, c'est l'organisation sociale qui s'appuie sur un système religieux.